Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Aujourd'hui, en Israël, il y a une population qu'on appelle les infiltrés. Ce sont des immigrants africains qui réclament l'asile politique ou le droit de résidence. Ils sont autour de 35 000 et le gouvernement israélien, dirigé par Benjamin Netanyahou, a essayé de leur trouver un pays d'accueil en Ouganda ou au Rwanda. Des négociations avec l'ONU pour trouver d'autres pays d'accueil ont également échoué. Ces infiltrés sont aussi menacés d'être internés. Tout cela a mobilisé une partie de la société civile en Israël qui, pour des raisons humanitaires, a soutenu leur cause. Finalement, la Cour suprême d'Israël a décidé que ces mesures d'expulsion et de rétention étaient illégales. Cette levée de boucliers a conduit le gouvernement Netanyahou à proposer une loi dite de contournement des décisions de la Cour suprême, ce qui a également suscité une vive opposition au Parlement israélien. Alors nous allons demander à Meir Van Treter de nous expliquer en quoi consiste cette loi de contournement. Meir Van Treter, nous le connaissons bien, il est actuellement président de l'association J-Call et surtout il a été directeur de la rédaction de l'Arche, le magazine du judaïsme français, pendant de nombreuses années. Meir Van Treter, vous êtes là?
Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour Meir. Alors Meir, vous avez entendu un peu la petite introduction. Pouvez-vous nous expliquer exactement ce qu'est la loi de contournement? Pourquoi elle suscite une telle polémique en Israël et quels sont les enjeux politiques et moraux que soulève cette loi de contournement?
Il faut commencer par dire à quoi répond la loi de contournement. Elle répond à une jurisprudence constante de la Cour suprême d'Israël, constante depuis au moins 1995, selon laquelle la Cour suprême, qui est, disons, en Israël, un peu l'équivalent de ce que sont chez nous à la fois le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, c'est-à-dire qu'elle est compétente tant en ce qui concerne le droit public qu'en ce qui concerne le droit privé. Donc, depuis le milieu des années 90, la Cour suprême, de manière constante, réagit, se prononce sur les lois et sur l'application des lois ordinaires en se référant aux lois fondamentales et en se référant à l'esprit des lois fondamentales qui reposent notamment sur le concept d'un État juif et démocratique. Alors pourquoi des lois fondamentales?
J'allais vous poser la question.
Oui. D'abord parce qu'Israël n'a pas de constitution. Lorsqu'Israël a été créé en 1948, pour des tas de raisons, essentiellement des raisons politiques, il était difficile de rédiger une constitution qui serait acceptable par tout le monde. Et les législateurs, au début, la première Knesset, a trouvé une solution qui paraissait raisonnable. C'est qu'au lieu d'une constitution, le Parlement israélien adopterait progressivement des lois fondamentales. C'est leur nom officiel, et ces lois fondamentales seraient des sortes de briques à partir desquelles on construirait progressivement la Constitution. Donc ces lois ont un statut supérieur aux lois ordinaires, notamment elles peuvent, mais pas toujours parce qu'elles ne sont pas rédigées toujours de la même manière, mais elles ne peuvent être modifiées que par une majorité qualifiée, non pas par la majorité ordinaire de la Knesset. Ces lois touchent à un certain nombre d'éléments fondamentaux, notamment les libertés individuelles, etc., la constitution de la Knesset, l'organisation des pouvoirs publics, etc. Mais tout ça ne forme pas encore une constitution au sens large du terme, parce qu'il manque toujours des éléments à cet ensemble.
Meir Van Treter, il y a combien de lois fondamentales?
Il y a une quinzaine aujourd'hui de lois fondamentales, 15 même exactement.
Elles sont toutes anciennes ou il y en a des récentes?
Non, ça a commencé au tout début, dans les premières années de l'État. Les, Il y a eu deux lois fondamentales très importantes qui datent de 1992 qui sont à la base de la de ce qu'on a appelé la révolution constitutionnelle de 1995, dont je parlerai dans un instant. Et puis ça continue. Et aujourd'hui, ben, la loi dont je vais vous parler, la loi de contournement, aurait aussi le statut d'une loi fondamentale qui s'appellerait Ruka, la loi sur l'organisation des lois.
Mais est-ce que c'est légal de promulguer une loi qui contourne la Cour suprême? Est-ce que la Knesset a le droit de faire ça
C'est ça le problème, disons. La Knesset, si vous voulez, la Knesset... En général, tout le système politique israélien a été constitué un peu à l'image du système britannique. Israël a hérité d'un système de loi du mandat britannique lors de sa création en 1948. Et le système a été créé notamment, il y a un seul parlement, comme une seule assemblée parlementaire, comme en Grande-Bretagne. Et cette assemblée parlementaire peut, comme le dit l'expression traditionnelle britannique, le Parlement, la Chambre des communes, peut tout faire, sauf transformer un homme en femme.
C'est dur.
J'ai dit il y a un instant qu'il y a un seul... techniquement, ce n'est pas vrai. Aux États-Unis, il y a la Chambre des communes et la Chambre des Lords, mais il est évident que la Chambre des Lords est complètement... hors jeu en ce qui concerne l'adoption des lois, les décisions politiques essentielles, et c'est dans cet esprit qu'a été également organisée la Knesset. Donc la Knesset est le Parlement qui représente la totalité des Israéliens, et à ce titre, la Knesset peut promulguer toutes les lois qu'elle veut et peut les modifier aussi. Le problème, c'est que... Et la question sur la légalité d'une nouvelle loi se pose effectivement. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un édifice qui a été créé au fur et à mesure, au fil des années, et que la Knesset, aujourd'hui, en adoptant une loi, ne peut pas ignorer l'existence des lois précédentes, et notamment l'existence des lois fondamentales.
Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'antagonisme.
Si la Knesset, aujourd'hui, votait cette loi de contournement dont il est question, et qui consisterait, il y a un certain nombre de formes de rédaction qui circulent, mais disons l'essentiel, ce serait l'idée que si la Knesset vote une loi, si cette loi est retoquée par la Cour suprême, un peu comme une loi en France peut être retoquée par le Conseil constitutionnel, en France c'est parce que le Conseil constitutionnel dit qu'une loi n'est pas conforme à la Constitution, dans le cas israélien, ce serait la Cour suprême qui dirait que cette loi n'est pas conforme aux précédentes lois fondamentales et à l'esprit de ces lois fondamentales, qui est, je le répète, l'esprit d'un État juif et démocratique, bien... selon la loi de contournement, si la loi était retoquée, la Knesset pourrait voter à nouveau la loi, la confirmer en quelque sorte, par une majorité simple. C'est ce qui veut dire que n'importe quelle loi, en fait, pourrait passer aujourd'hui par une majorité de 61 députés sur 120.
Est-ce que ça affaiblirait considérablement la Cour suprême, les pouvoirs de la Cour suprême?
Pardon?
Est-ce que ça affaiblirait considérablement les pouvoirs de la Cour suprême si une telle loi passait?
Alors, encore une fois, tout est dans la manière de le faire. Théoriquement, on peut imaginer un système, ça existe dans d'autres pays, où une loi de ce genre, une loi de contournement, cohabiterait avec un fonctionnement normal de la Cour suprême, mais ça voudrait dire que tout le monde, le milieu politique dans son ensemble continuerait de respecter le fonctionnement de la Cour suprême. Malheureusement, la raison pour laquelle des gens veulent aujourd'hui instaurer, faire voter une loi de contournement, c'est précisément parce qu'ils ne veulent plus jouer le jeu constitutionnel, c'est parce qu'il y a cette illusion qui est dangereuse et qui peut être potentiellement destructrice, qu'une majorité, d'occasion, une majorité créée par une élection législative et qui peut être renversée même dans le cours même de la législature à l'occasion d'un changement politique au sein de la Knesset, une majorité peut annihiler, détruire, modifier tout ce qui a été fait jusque-là. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire à l'idée même d'une d'une démocratie qui fonctionne. Une démocratie qui fonctionne, ce n'est pas une démocratie où il suffirait d'une majorité accidentelle pour tout modifier. C'est une démocratie où il y a un certain nombre de règles qui s'imposent à tout le monde, au public, mais aussi aux élus, mais aussi aux dirigeants. Et c'est comme ça que se maintient un climat de confiance entre la population et les élus, et puis entre à l'intérieur du système politique, à l'intérieur des partis, entre les partis politiques eux-mêmes.
D'accord. Meir Van Treter, vous avez récemment diffusé un texte très intéressant. Vous l'avez diffusé largement sur les réseaux sociaux. C'est un texte d'Aaron Barak, l'ancien président de la Cour suprême. Et ce texte parle de valeurs d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. En l'occurrence, je voulais vous demander, Meir, où se trouvent en cette affaire de loi de contournement les valeurs d'Israël ? Est-ce qu'on n'est pas en pleine contradiction, là ? Comme vous venez de l'expliquer, d'ailleurs, un peu.
En pleine contradiction. La technique de la loi de contournement ne se réfère pas au concept d'État juif et démocratique, mais elle rendrait possible l'effacement de toutes ces références, et notamment on pourrait demain matin voter une loi contrairement à ce qu'énonce Aaron Barak dans cet article, qui ne mettrait plus sur le même plan les deux termes État juif et démocratique, mais déciderait qu'un État peut être juif, quel que soit le sens qu'on donne à ce terme d'ailleurs, et que secondairement il serait démocratique. Et là, ce serait une catastrophe. L'article d'Aaron Barak, merci de l'avoir rappelé, parce que c'est un article très important.
Oui, c'est important.
L'article d'Aaron Barak, du professeur Aaron Barak, parce qu'il est redevenu, après avoir été longtemps professeur et puis doyen de la faculté de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem, il est devenu juge à la Cour suprême, président pendant une dizaine d'années de la Cour suprême, et il est à nouveau professeur de droit. Ce que dit Barak dans cet article, c'est que la dualité...
Meir, il nous reste deux minutes.
Juif et démocratique est essentiel au système...
Meir, il nous reste deux minutes, là. Donc, je voulais vous demander, je crois que vous organisez, autour de toutes ces questions, à Jicol, un colloque demain, samedi 28, à la mairie du 4e arrondissement. C'est à partir de 9h30. Est-ce que vous pouvez nous dire en une minute de quoi il s'agit ?
C'est difficile à dire en une minute.
Ben oui, mais il nous reste une minute.
je ne peux que vous inviter, qu'inviter tous nos auditeurs à s'y rendre. Il s'agit de poser cette question. C'est un colloque, hein. C'est pas un meeting, c'est pas un endroit où on vient avec des idées préconçues. On fait parler des experts, notamment des experts israéliens, aussi bien des experts de droite, des spécialistes du système politique israélien, mais aussi des élus israéliens, et on dialogue avec eux, on les entend dialoguer entre eux sur le fonctionnement de la démocratie israélienne.
Merci beaucoup de vos réponses. J'espère que ça va faire réfléchir beaucoup d'auditeurs, parce que c'était très intéressant. Je vous souhaite Shabbat Shalom, et également à tous et à toutes nos auditeurs. On se retrouve pour un autre rendez-vous dans 15 jours. C'était Paul Ouzi Meyerson à l'antenne pour Chronique de la Paix. À bientôt.